Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast où on va aborder différents secteurs d'activité qui vont peut-être être à la mode par la suite, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup eu le luxe, les nouvelles technologies qui ont connu leurs années un peu folles dernièrement, mais également des descentes aux enfers pour certaines activités technologiques et d'autres activités dans l'immobilier. Donc, on va voir un petit peu les secteurs qui peuvent s'en sortir, ceux qui peuvent tirer leur carte du jeu, et notamment pourquoi, donc quels sont les avantages de ces différents secteurs. On va parler tout d'abord du secteur de la technologie. Donc, le secteur de la technologie a beaucoup régressé ces derniers mois, notamment avec la hausse des taux d'intérêt. Donc, vu que c'est des entreprises de croissance qui demandent beaucoup de capital, beaucoup d'investissement, elles ont dû beaucoup emprunter et en fait, leurs investissements ont dû être mis en pause parce que tout simplement, le coût du capital coûtait beaucoup trop cher. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut aussi regarder entre les lignes avec ces entreprises-là. Les entreprises de la technologie, comme notamment en France avec Capgemini, par exemple, qui est dans le conseil à la transition technologique des entreprises. Donc, c'est eux qui vont digitaliser, etc., les entreprises. C'est ceux qui vont faire du conseil un peu dans tout ce domaine-là. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une entreprise du domaine des services, donc du domaine tertiaire, augmente son chiffre d'affaires, augmente son résultat, ça augmente proportionnellement le coût de la main-d'œuvre. On n'a pas de gain de productivité sur les services, ça n'existe pas. Ou alors c'est vraiment très très faible. Et en fait, ce qui va se passer, et je pense que tout le monde qui écoute ce podcast est au courant, c'est qu'on a l'intelligence artificielle qui arrive. Alors, on peut écouter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tous les petits sorciers qui vous disent d'investir sur l'IA. Mais qu'est-ce que ça veut dire investir sur l'IA? C'est flou en fait. Donc plutôt que juste investir sur l'IA et dire que c'est le futur, faut comprendre déjà à quoi ça va servir. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de gain de productivité dans les métiers tertiaires. Et c'est là où l'IA, plutôt qu'il. Moi, j'aimerais bien mettre un point d'honneur à ça. Il fait peur à beaucoup de monde, mais également, ça peut être une source d'opportunité pour à la fois pour les entreprises, pour les salariés, pour les investisseurs, dans le sens où il peut y avoir justement ce gain de productivité qui manquait. Parce que les tâches chronophages, les tâches qui étaient un peu trop compliquées, comme notamment, je le sais parce que je l'ai vu, on peut, par exemple, retrouver des articles de loi ultra rapidement lorsqu'on est sur des problèmes spécifiques de droit. On peut tout de suite trouver, par exemple, une structure dans une analyse économique. On peut tout de suite résoudre un problème mathématique rapidement, un problème physique, trouver des formules, des résolutions de problèmes, ou au moins des pistes. Donc ça aide vraiment en termes de productivité, puisque tout ce travail en amont peut être résolu avec l'intelligence artificielle. Et en plus, on n'en est qu'au début. Et en plus, c'est toujours pas encore implanté de manière vraiment dans l'entreprise. On n'a pas eu d'innovation incrémentale de cette IA dans les entreprises, etc. Donc, il faut pas simplement écouter les gens qui vous disent investissez dans l'IA. Non, investissez dans les entreprises qui, justement, peuvent profiter de cet effet de levier de l'IA. Voilà, il faut comprendre ça. Ce n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. J'ai parlé de Capgemini parce que c'est celle qui me vient en tête et c'est celle qui, justement, normalement, selon moi, devrait profiter le plus de cette implémentation-là. Mais on peut avoir toutes les entreprises du service qui peuvent en profiter, notamment en France, qui demandent un fort coût de main-d'œuvre, un coût de ressources humaines, du moins. Ensuite, je voulais vous parler, comme je l'ai mis dans le titre, de la mobilité verte. Bien sûr, on va parler d'autres secteurs. Alors, on a eu beaucoup de coups durs ces derniers temps dans le secteur automobile, notamment le secteur thermique, avec Renault et Stellantis pour parler du marché français, malgré que ce soit des marques mondiales. Aujourd'hui, on a vu, notamment dans les derniers résultats trimestriels, pardon, qui sont sortis, semestriels, que les voitures électriques ont dépassé les voitures diesel. Donc, c'est formidable. Parce que ça veut dire qu'on commence à avoir une transition vers l'électrique qui se fait. Alors, j'ai pu le dire dans d'autres podcasts, pourquoi il y a eu ce revirement-là, notamment grâce aux politiques locales, notamment en France avec la prime à la conversion, etc., etc. Je ne reviendrai pas dessus de pourquoi, du comment il y a eu ce revirement électrique à la place du diesel, mais allez écouter ce podcast-là. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Mais également, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que j'ai écouté justement un reportage, c'était ce soir, Et ça m'a fait assez rire puisque ils disaient que les voitures électriques allaient devenir inabordables pour les gens, etc. Oui, si on reste comme ça, oui. Sauf qu'il y a deux points que je voulais vous aborder, vous faire comprendre. C'est que dans un premier temps, lorsqu'on a eu la Ford T à l'époque du Fordisme, les voitures, qui pouvaient s'en payer? Personne. Et Ford a décidé de gagner en productivité en mettant en place le Fordisme, donc le travail à la chaîne, le travail ultra spécialisé, les ouvriers qui travaillaient à un rythme effréné, malgré qu'ils étaient mieux payés, etc. Je ne vais pas vous refaire le Fordisme. Du coup, on a eu ce gain de productivité, une baisse des prix qui était conséquente, pardon, et du coup, les concurrents ont dû s'aligner, ce qui a permis aux ouvriers eux-mêmes de pouvoir s'offrir une voiture. Donc, ce qui a dynamisé le marché de l'automobile et ce qui a permis de faire baisser les prix automatiquement. On peut retrouver ce genre de Fordisme aujourd'hui dans l'automobile électrique, puisqu'on va gagner en productivité. Parce que si justement le marché électrique commence à prendre le pas sur le diesel, et en plus si on commence à avoir des méga factories, si on commence à avoir des usines de batteries comme en France, notamment dans le pôle électrique à l'Electricity de Douai, mais également dans les usines de batteries électriques du groupe Stellantis, du groupe Renault, etc., on peut avoir ce gain de productivité si on commence à produire en masse. Il y a ce premier point. Deuxième point, c'est que on va avoir un effet de déstockage qui est en train de s'opérer en ce moment, hein, sur les matières premières, parce qu'on a eu une enquête du S&P PMI Manufacturier International qui a dévoilé que les matières premières, donc notamment les minerais pour fabriquer les batteries, étaient en effet de déstockage. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu la crise du Covid avec les problèmes logistiques que l'on a tous connus, donc avec les pénuries pour ceux qui voulaient s'acheter une carte graphique notamment, il y a eu ce souci de pénurie, ce souci de logistique. Et donc les entreprises, pour remédier à cela, les entreprises des matières premières, ont surstocké. Et en fait, du coup, aujourd'hui, lorsque les chaînes de production ont commencé à reprendre leur rythme normal, on a commencé à prendre un rythme, on a retrouvé une cadence qui était normale. On a retrouvé une chaîne logistique qui est opérationnelle. Donc aujourd'hui, on est en surstockage et donc on est obligé de déstocker. Donc on a une sorte de déflation, une sorte de récession du secteur des matières premières qui s'opère. Donc voilà, donc on a deux facteurs qui vont permettre d'avoir ce gain de productivité et qui, selon moi, vont faire baisser nettement les prix. Et dans tous les cas, on va le voir déjà avec la prochaine voiture électrique du groupe Renault, avec la R5 qui va être aux alentours de 20 000 euros. On a la Mégane, certes, qui coûte dans les 35-40 000 euros, peut-être un peu moins, avec le bonus écologique, etc. Mais on commence à avoir des prix beaucoup plus abordables. Et en plus, et ça, je n'avais pas pensé de vous le dire, mais Tesla, il est passé de vendre avec beaucoup de marge à vendre avec du volume. Il a baissé de 10 points ses marges, maintenant il fait du volume. Donc il a baissé énormément les prix de ses voitures. Donc ça, c'est important de voir ça bouge très très vite. Il ne faut pas dire ça va augmenter, on n'en sait rien. Troisième secteur sur lequel je voulais vous alerter, c'est le secteur de l'immobilier. Moi, je suis deux entreprises dans le secteur de l'immobilier, c'est Nexity et Altarea. Donc ces deux entreprises-là sont leaders dans leur domaine, notamment Altarea dans les bâtiments technologiques et à transition énergétique. Donc c'est-à-dire qu'ils sont leaders dans tout ce qui est bâtiment non énergivore, avec des nouveaux matériaux innovants, etc., etc. Donc dans le bureau et dans le logement, dans le commercial également, si je ne me trompe pas. Et on a Nexity, comme je l'ai dit, qui, comme je pense que vous le connaissez, qui fait des projets immobiliers, donc là, qui est leader dans les gros ouvrages immobiliers. Et ces entreprises-là ont subi un net arrêt de leur activité. C'est notamment dû à la hausse des taux d'intérêt. Donc, on a eu une grosse crise sur les cours de bourse de ces actions-là, un peu un cri de panique sur ces entreprises. Donc, j'avoue, je n'ai pas tout de suite compris. Alors, d'accord, il y a eu des mauvaises nouvelles, une baisse de l'EBITDA, la direction qui a décidé de baisser ses anticipations financières pour l'année, ses objectifs financiers. Donc, baisse de l'EBITDA, c'est l'excédent brut d'exploitation avant intérêt et amortissement, etc. Donc, c'est avant le. Pour faire gros, on va dire une baisse du résultat qui est attendue pour Nexity, une baisse en tout cas de ses objectifs. Et donc en fait, on a eu une crise sur le secteur. Alors comme je l'ai dit, le premier facteur, c'est dû à la Banque centrale qui a augmenté ses taux progressivement durant l'année. Mais c'est en aucun cas une baisse de la demande, puisque déjà le marché de l'immobilier en France est en pénurie structurelle, et puis la demande est en constante augmentation structurellement également. Donc déjà deux points positifs pour le secteur immobilier. Les matériaux, comme je l'ai dit, des matières premières, le bois et toutes les matières premières de la construction finalement, sont structurellement en ce moment en récession, leurs prix sont en déflation, en déstockage. Donc en fait, on a deux facteurs, une demande qui est forte et des matières premières qui sont peu chères. Donc on a des projets qui sont en stand-by, notamment, surtout à cause des taux d'intérêt qui sont élevés. Donc les promoteurs, comme les particuliers qui veulent acheter, comme les entreprises qui veulent trouver des bureaux, veulent juste en fait qu'on leur laisse avoir des projets, des logements, etc. C'est juste une question de prêt de taux d'intérêt. Donc pour moi, lorsque les taux d'intérêt vont être relâchés, vont se redétendre, pour moi, le marché de l'immobilier va revenir fort en fait. Parce qu'il n'y a aucune raison, on n'a aucune pénurie, on a, comme je l'ai dit, de toute façon, on n'a aucun autre bâton dans les roues de ce secteur d'activité. Donc il faut surveiller vraiment des acteurs, donc pas forcément Alterea et Nexity, hein, ce n'est pas des conseils encore une fois, mais surveiller ce secteur-là parce que je me dis, on n'a pas de raison de se dire que finalement il faut le mettre de côté dès maintenant. Une crise de l'offre, on n'a pas beaucoup trop de logements par rapport au nombre de demandes. Non, c'est les deux acteurs fournisseurs comme clients demandent juste une chose, c'est qu'on les laisse faire leur projet, quoi. Et puis un petit dernier secteur, c'est le secteur de l'assurance qui est aujourd'hui bien valorisé. Il faut aller saisir les opportunités. On n'a pas des grosses opportunités en ce moment-là que je peux identifier sur le secteur de l'assurance. Néanmoins, il faut le surveiller puisque il y a beaucoup qui crient au drame sur le secteur de l'assurance. Les indemnisations qui sont versées aux clients des assurances sont en constante augmentation, dû notamment aux crises climatiques que l'on connaît. Donc, bien sûr, c'est pas bien du tout pour les assurances, mais du coup, elles vont répercuter leur prix forcément sur leurs clients. C'est automatique. On est obligé d'avoir une assurance, et donc là-dessus, ils n'auront aucun souci pour répercuter leurs coûts. Donc, très important de surveiller le secteur assurance parce que c'est un secteur à haut rendement. On a beaucoup de gros revenus et de gros dividendes sur ce secteur, donc c'est très très intéressant de le regarder. Donc, notamment, tous les secteurs que je vous ai évoqués déjà, ça peut vous faire une diversification. Petit point quand même sur ces secteurs-là, c'est que on est quand même sur du cyclique, c'est-à-dire que lorsque l'économie va bien, on va avoir une croissance forte de ces différents secteurs. Lorsque l'économie va mal, on risque de retomber. De toute façon, on le voit les différents cycles. Quand vous prenez par exemple le cours de bourse de Renault, vous voyez, c'est très cyclique. L'immobilier va suivre les taux d'intérêt. Enfin, c'est regardez depuis 2000, 2013, 2014, 2012, enfin. Quelque chose comme ça, on a eu la baisse progressive de taux d'intérêt, bah on a le cours de Altarea, si je ne me trompe pas, qui évolue entre ces deux périodes-là, fortement, qui va jusqu'à 200 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment surveillez bien ça, faites attention à cette cyclicité, attendez de saisir les opportunités, ne vous précipitez pas trop vite sur tous ces secteurs-là, parce que j'en ai parlé, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de vous alerter et de justement de vous donner un peu des points d'attention, mais en aucun cas de se précipiter du tout dessus, ce n'est pas du tout le moment. J'ai pas dit qu'on avait tout de suite des opportunités, c'est par contre des points importants à surveiller et justement pas non plus à s'alarmer sur toute la catastrophe qui peut se passer. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Il a un peu changé des autres. Donc dites-moi également, encore une fois, si ce petit format vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos idées. Encore une fois, vos petits retours sur les secteurs que vous pensez être dynamiques par la suite. S'il y a, comme moi, vous pensez qu'elles pourraient être implémentées et qu'ils pourront profiter des gains de productivité, ce serait intéressant d'avoir vos petits retours, donc que ce soit sur Insta ou directement sur Spotify. Si vous n'êtes pas sur Insta, c'est Guillaume Alix Plus. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, j'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, à vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. Et moi, je vous dis à plus pour les prochains.